Mittalmeyer, philosophie du paysage. Rien n'a été aussi critiqué et n'est aussi laidement criard que les paysages suisses de Gustave Doré. Ces glaciers à facettes, ces neiges roses, ces cimes violacées, toutes ces formidables montagnes multicolores pleines de cascades de cristaux, ne donnent même pas la sensation d'œuvre d'art. Le modèle est cependant très beau, d'une beauté constatée par tous les guides, consacrée par l'admiration générale, et on ne peut pas en effet ne pas y reconnaître quelque chose d'éblouissant, de vertigineux et de gigantesque. Est-ce donc que les tableaux sont mauvais? Mais aucun autre artiste ne nous a laissé une bonne toile sur ces gouffres et sur ces chaos. Est-ce alors que l'idée de gouffre ou de chaos n'est pas traduisible par le dessin ou la peinture? Non, car ils l'ont rendu dans d'autres sujets, notamment dans certains fonds de Christ. Mais une fatalité paraît peser en art sur tout ce qui est paysage suisse ou genre suisse. Il suffit qu'un pays soit trop fantasmagorique et trop polychrome pour que la véritable inspiration ne s'y accommode pas. Les sites plus simples, au contraire, un clocher au fond d'une lande, un pommier dans l'herbe, les toits et les pans de mur d'un village dans le creux d'une colline, semblent être des motifs de chef-d'œuvre presque fraîches, faciles. Les peintres donnent à cela des raisons de métier, mais on pourrait peut-être en retrouver d'autres. Voilà déjà longtemps, je l'avoue, que la Suisse et toutes les Suisses du monde ne m'émeuvent plus. Je ne me sens pas pourtant réfractaire ou grandiose, et la mer, par exemple, ne m'a jamais lassé. Je ne songe pas non plus à nier ce qu'il y a d'étonnant et de monstrueux dans certains pics et certains abîmes, ou d'éclatant et de féerique dans le lever du soleil sur certains sommets classés et classiques. Mais je reste froid, rien ne m'y prend, rien ne m'y parle. J'éprouve même bientôt une espèce de gêne. C'est merveilleux, colossal, étourdissant, magnifique, mais j'ai envie de m'en aller. Et si quelque chose me gêne ainsi, dans ces prodigieux points de vue, ce n'est pas seulement leur insupportable caractère d'exhibition, la quantité d'industrie et d'exploitation qu'il entraîne, et la pensée qu'en passant certaines frontières, je vais à me dire livre aux pantomimes. Non, il y a autre chose de moins accidentel, de plus permanent, et la vérité, c'est que je suis en face d'une nature qui n'est pas humaine. Non pas que j'aime les paysages artificiels et dessinés par les jardiniers, et cela me laisse aussi frais froid. Non pas que l'âpreté, la rudesse et la misère d'un pays m'en gâtent la beauté spéciale. Et ces paysages-là, au contraire, peuvent être profondément émouvants. Mais les monts titanesques, les neiges éternelles, où rien ne vit, rien ne pousse, précisément parce qu'elles sont les neiges éternelles, les glaces vierges, dont la dévirginisation est devenue un sport stupide, comme beaucoup de sports. Et tout cela manque d'âme, de je ne sais quoi d'attachant que l'existence de l'homme naturel met toujours là où elle se devine. Que peuvent me dire artistiquement et philosophiquement ces grandes machines géologiques où pas un être humain n'a jamais été destiné à respirer et dont les seuls habitants sont des maîtres d'hôtel en habit noir venus du boulevard des Capucines? Toutes ces splendeurs et toutes ces énormes caprices, couleurs d'aurore et d'argent, peuvent être admirables, mais encore une fois, ils ne sont pas humains, dans le sens symbolique du mot. Ils manquent de naturel, tout en étant la nature, et vous rappellent à leur manière les plafonds des brasseries et des casinos. Auprès de ces immenses décors de glace et de neige, vous voyez à présent nos collines et nos vallées de France, nos landes, nos bois, nos chaumes, nos étangs. Comme on s'y sent bien partout la vie, une vie discrète et cachée, éparse dans les plis de la terre. Rude ou facile, heureuse ou misérable, mais qui est bien l'âme du pays. Ce sont des débandades de petits toits sur les coteaux, des marécages piétinés par les bestiaux, un vieux château aux volets rapiécés qu'on entrevoit sous les arbres, des vallons gras où paissent les ruisseaux, des prairies jonchées de pommes par les coups de vent. On y rencontre bien aussi des pics, des chaos et des abîmes, mais de loin en loin, à leur place, et comme les grands drames arrivent dans la vie. Autrement, c'est la monotonie, mais une monotonie de surface, toujours comme dans la vie, et sous laquelle fourmillent toutes sortes de nuances secrètes dans une inutile, infinie variété intime. Et cette variété et cette intimité, nos paysages nous les disent, par leur douceur ou leur sécheresse, leur gaieté ou leur mystère, leur bruit de moulin ou de carriole et leur chant de cloche ou de forêt. Rien de tout cela ne s'enfonce à des profondeurs infernales, ne se hausse à des altitudes folles, ne se constelle des prismes et d'éclats sanglants, aveuglants. Mais on y vit, on y travaille, on y jouit. On y souffre naturellement. Vous êtes là en terre humaine et vous l'y sentez aux moindres ânes qui broutent, aux moindres troupeaux qui passent, aux moindres pointes de clocher. Si certains paysages, par trop somptueux, ne semblent pas matière à œuvre d'art, n'est-ce pas ainsi le plus souvent, en dehors même d'autres raisons, parce qu'ils ne sont pas humains? La mer, elle aussi, est gigantesque, mais des milliers d'êtres y émigrent, vont y gagner leur pain, y peinent, y prient, y naufragent. Et en cela, elle est humaine. Son spectacle et son bruit nous parlent. Nous connaissons des Christs dont les fonds apocalyptiques, au-delà des trois croix dressées, sont poignants de grandeur et de beauté. Mais ces fonds effrayants et surnaturels mêlent justement dans la circonstance et tordent, pour ainsi dire, ensemble la nature et l'humanité. Tandis qu'un glacier recommandé par le Conti, une chute d'eau indiquée par le Johann, un précipice admiré par le Becquerel, qu'est-ce qu'ils peuvent bien être, sinon un très beau glacier, une très belle chute d'eau, un très beau précipice, et rien d'autre, chose au-delà. Et cette beauté matérielle trop grande, ce luxe trop riche de torrents, d'avalanches, d'éblouissements, n'empêchent-ils pas aussi par eux-mêmes ce qu'on pourrait appeler l'émotion pittoresque, comme trop de décors naissent à une pièce, nuisent à une pièce? Et comme trop de style nuit à un livre. Le Mont Blanc, le Rigi et les pays similaires ne représentent dans le paysage la virtuosité, la grosse virtuosité. J'y vois les variations pour les variations, la fantaisie pour la fantaisie et la cascade pour la cascade. C'est de la grandiloquence et de la déclamation. Du tapage et de l'effet, de la préciosité et de l'assourdissement. Il me semble assister au truc d'une féerie. Et le goût du public pour la Suisse s'explique par son goût pour le théâtre. Il y va voir des décors dont il se dit avec enthousiasme qu'ils sont réels. Ça lui rappelle l'opéra et la Porte Saint-Martin. Il retrouve telle pièce dans tel point de vue, jouit d'apothéose en plein air, et l'amour du spectacle et celui de la Suisse sont chez lui tellement identiques, et si bien le même en entraînement, que le touriste et le spectateur s'habillent l'un et l'autre d'un costume spécial. On met la cravate blanche pour aller entendre Sigurd, les souliers jaunes pour monter à Chamonix, et l'on prend la même lorgnette. La mort de l'art, seulement comme celle de l'émotion, n'est que trop souvent dans cette virtuosité. Montrer trop de métiers, afficher trop de moyens, faire jouer trop de cordes et de miroiter trop de couleurs, on peut avec cela étonner et stupéfier, mais on est sûr de ne pas toucher. Le plus éblouissant et la plus banale, habile des peintures ne voudra jamais l'évocation simple et vraie. Et pour trouver un site évoquant bien l'idée d'horreur et de terreur, il faudrait peut-être même pas le chercher dans les Alpes. Il y serait trop théâtral, trop chargé, trop horrible, trop terrible, et si horrible et si terrible, avec une telle intention de l'être, qui ne donnerait plus que la comédie de ce qu'il devrait donner réellement. Une lande ou une gorge de France, bien prise, bien simple, bien mystérieuse, dégagerait sans doute beaucoup plus d'épouvante. Elle serait limitée au lieu d'être immense, frissonnante au lieu d'être rugissante, vague au lieu d'être hérissée, mais elle serait l'épouvante elle-même. Maurice Talmer.